15h36 minutes, 88 971 1021 s'il y a quoi que ce soit. Max, mise à jour circulation.
William qui nous texte camion en panne sur la 20 voie de gauche sur le viaduc de Chemin des Îles direction Québec, donc j'imagine qu'on veut dire direction ouest. Sinon, pas le choix de vous rappeler ce qui se passe là, accident qui cause fermeture, Capitale-Est fermeture desserte pour Robert Bourassa Nord, déviation qui se fait par Robert Bourassa Sud et Robert Bourassa Sud, fermeture de la bretelle d'accès pour Capitale-Est, donc accident, les services d'urgence qui sont sur place. Sinon, vous mentionnez Henri-IV-Sud, hauteur route Sainte-Geneviève, la voie de gauche qui est bloquée par une sortie de route. Là aussi, les services d'urgence qui sont sur place. Et présentement, c'est surtout là que ça se concentre.
Au Québec, il y a un gros, gros, gros engouement pour tout ce qui est protéines, notamment chez les ados, les adultes aussi, évidemment, mais ça suscite l'intérêt des géants alimentaires comme Coca-Cola, comme Pepsi. Je pense juste à Coca-Cola qui a une croissance à deux chiffres là, à cause de sa gamme Fairlife. Max, t'as sûrement déjà vu ces laits-là, Fairlife. Moi, je ne jure que par ça depuis à peu près un an et demi. Pepsi, de son bord, prévoit des lancements majeurs à l'automne dans le secteur des boissons protéinées, mais aussi tout ce qui est produits dérivés. Je t'en parlais un peu tantôt, mais tout ce qui est Doritos protéinés, les Quaker protéinés, on est vraiment là-dedans, là. Et le marché mondial des protéines, pour vous donner une idée, devrait passer de 12 milliards en 2024 à 27 milliards d'ici 2030. C'est le Journal de Québec qui sortait un article là-dessus dans les derniers jours, puis je trouvais ça intéressant parce qu'au Québec, l'entraînement en salle a progressé de 50 % en 4 ans, ce qui renforce, vous comprendrez, la demande de suppléments. Puis quand on s'entraîne, on se fait dire qu'il faut manger des protéines. On va essayer de démêler tout ça dans les prochaines minutes. Vanessa Daigle qui vient de s'installer en studio, nutritionniste. Vanessa?
Salut.
Comment? Oh, je t'ai-tu allumée?
Salut!
Oh, voilà!
Ça marche?
Je te trouvais loin un peu. Premièrement, j'ai le goût de te demander, c'est quoi le réel besoin de protéines pour nous par jour? Parce qu'on entend tellement de choses sur les différentes plateformes. Il y a tellement de nutritionnistes ou de gens qui s'improvisent, plans alimentaires et compagnie, sur les différentes plateformes, que des fois, c'est dur de savoir notre corps a besoin de quoi, mettons, pour fonctionner de la bonne façon. Là.
C'est vraiment intéressant, pour vrai, comme sujet. Puis honnêtement, si vous allez sur Google puis que vous tapez comme « c'est quoi mes besoins en protéines, tu sais, pour un homme, une femme, une journée, etc., vous allez vraiment trouver des données qui sont variables. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si on s'intéresse aux résultats qu'on trouve, mettons, aux recommandations des grandes instances de santé, là, encore à ce jour, puis tu sais, de même, là, ça va rien vous dire, là, le chiffre, mais juste pour le quantifier, finalement, là, on dit que c'est 0,8 g par kilogramme de poids corporel qu'on a de besoin. Ça, c'est les recommandations des grandes instances de santé, puis somme toute, c'est vraiment très peu. Pourquoi est-ce que ça demeure ça, en fait? Moi, je dis toujours qu'il y a une différence entre les besoins de notre corps. Donc, qu'est-ce que notre corps a besoin, finalement, pour ne pas dégrader nos protéines musculaires pour aller chercher des acides aminés? Et qu'est-ce qui serait optimal? C'est que là, ce qu'on a réalisé au cours des dernières années, des dernières décennies, c'est qu'il y a une différence entre le besoin primaire du corps puis qu'est-ce qui est optimal de manger. Et pourquoi c'est optimal d'aller chercher un niveau plus élevé de protéines que nos besoins réels, en fait? C'est en lien avec l'effet rassasiant de la protéine. Fait qu'on le sait, là, dans le fond, manger des protéines, c'est très rassasiant. Donc, dans un monde où on vit dans l'abondance alimentaire, où on a toujours de la bouffe, souvent de la bouffe qui est trop dense en calories, qu'on a à consommer, qu'on est sédentaire, d'avoir des aliments qui sont plus rassasiants, ça nous permet de consommer moins de calories de manière générale.
Mais est-ce que c'est positif que les grandes entreprises se penchent sur des dérivés protéinés? Parce que pour moi, on dirait qu'il y a une différence entre manger une poitrine de poulet puis des Doritos protéinés, là.
Justement. Donc, je ne trouve pas. Je trouve que c'est un peu pousser la recommandation à son extrême. C'est le fun des fois d'avoir un petit supplément pour aller supporter l'alimentation. Je te donne un exemple. Moi, ces temps-ci, il fait avec la chaleur, le midi, j'ai moins faim. C'est plus difficile pour moi de prendre un dîner qui est plus complet. Fait que des fois, je vais juste aller compléter avec un supplément de protéines. Tu sais, ça m'aide, ça facilite mon quotidien. Mais quand on tombe dans la nourriture ultra transformé, protéiné. Je trouve que c'est un peu de flouer le consommateur en disant, ben dans le fond, je te vends de la scrap, mais j'ajoute des protéines, donc tu vas penser que c'est bon pour toi. Ça reste que, ben c'est peut-être plus rassasiant que si, par exemple, on avait du popcorn qui serait pas protéiné.
Mais le corps l'absorbe-tu bien? T'sais, si moi, je me fais croire, mettons, que mes chips protéinés après mon entraînement, je viens de combler ce que j'ai besoin, mettons.
Ben, juste ton lait dont tu parlais.
Oui, mais les produits laitiers à la base, c'est une
c'est
source protéines. C'est que je pense que là, c'est moins le problème que si, mettons, tu as carrément un aliment qui est transformé de toutes pièces. Okay,
Bien, la protéine en soi va être la même protéine. Fait qu'au niveau de l'assimilation, il ne devrait pas avoir de soucis. C'est juste qu'est-ce que ça l'englobe. T'sais, qu'est-ce que tu vas aller chercher d'autre? Donc, oui, tu vas aller chercher la protéine, mais tu vas aller chercher des additifs, tu vas aller chercher du sel, tu vas peut-être aller chercher des mauvais gras. T'sais. Fait qu'au final, tu penses que tu fais une bonne action, mais c'est un peu au détriment de ta santé. Puis, tu amènes un point intéressant dans le sens que tu dis, si je m'entraîne, mais je pense que les gens, ils déclochent trop vite sur le fait de comme je m'entraîne, nutrition sportive, plus de protéines, puis tout. T'sais. De manière générale, là, si tu bouges 3 à 5 fois semaine, environ une heure, entraînement modéré, t'as pas nécessairement besoin d'aller adapter ton alimentation tant que ça, puis d'aller chercher des suppléments. Là. On parle de ce qui devrait être finalement la normalité du mouvement du corps. Là.
Mais justement, à partir de quand la consommation devient excessive? Parce que moi, j'ai des amis qui s'entraînent, puis c'est comme là, dans les 20 minutes suivantes ton entraînement, il faut que tu aies pris ton shake parce que c'est là que c'est optimal pour tes muscles. Puis même,
Mais ça, tu vois, ça a été démenti, là, en fait.
Ah
là,
oui?
C'est un mythe qu'on entretient depuis longtemps.
Ça me fait plaisir.
Ouais. Puis ce qu'on sait aujourd'hui, en fait, c'est que c'est pas vrai que la fenêtre de 20 minutes après l'entraînement est super importante pour optimiser la récupération. Ce qu'on sait, c'est que ça va accélérer la récupération. Donc, mettons que tu es un triathlète puis que tu as 2 trainings dans ta journée. Donc, tu en as un de natation, mettons, le matin puis un de vélo plus tard dans la journée. Comme ça va accélérer ta récupération,
donc,
c'est
pour
pertinent.
La majorité des
pour la majorité des gens, c'est comme je te dis, on décloche trop vite dans le comme, OK, là, stratégie nutritionnelle, etc. Fait que, tu sais, c'est pas un besoin, effectivement.
Puis, qu'est-ce qui se passe quand tu en manges trop? Tu sais, dans le sens que tu entends des fois, ben là, tu devrais peut-être atteindre, je sais pas, moi, 130 grammes de protéines par jour. Moi, ça, je me suis fait dire longtemps. Là. Audrey, au poids et à la grandeur que t'as, quand tu t'entraînes pas, tu bouges pas, mange 130 grammes de protéines. Quand tu bouges, 150 grammes de protéines. Voilà. Mais là, t'es là, tu calcules là, tes repas, tes collations. Tes...
Ça en prend. Là.
Ben oui, puis des fois, je veux dire, j'en mangeais plus que ça parce que j'ajoutais justement des shakes et compagnie. Là. Je me suis déjà rendue à du 170 grammes de protéines dans ma journée. Là. Mais je veux dire, il se passe quoi avec ces protéines de surplus-là? Ils servent-tu vraiment à quelque chose?
Ben, premièrement, c'est qu'on doute de l'absorption. Il y a comme à la fois que t'en consommes, c'est un maximum que ton corps peut assimiler. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, ce qu'on sait, par contre, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de méfaits au niveau de la santé. Fait qu'il y a plusieurs personnes qui vont s'inquiéter, notamment de l'impact sur les reins puis tout ça. On sait qu'il n'y a pas nécessairement de problème à ce niveau-là. Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que si tu consommes vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de protéines, qu'est-ce que tu ne consommes pas d'autre? Donc, un moment donné, tu sais, il y a comme une limite à ce que ton corps peut manger. Fait que si tu mets tout le focus sur les protéines, bien, peut-être que tu manges moins de légumes, peut-être que tu manges moins de fibres, peut-être que tu manges moins de bons gras. Tu sais, à un moment donné, c'est juste que ça prend toute la place. L'autre chose étant comme que quand tu mets vraiment le focus là-dessus, tu vas consommer, tu vas avoir des apports en protéines qui sont super élevés. Puis ça, comme je te dis, des fois, ça peut avoir un impact quand même positif sur le poids. Cela dit, dès que tu vas relâcher, ben après, justement, ce poids-là, tu vas le reperdre. J'avais une cliente dernièrement, justement, qui me disait qu'elle avait commencé, avant d'avoir rendez-vous avec moi, à faire une genre de diète au shake de protéines. Je savais même pas que ça existait encore. Dans ma tête, c'est une vieille affaire, puis tout le monde sait qu'il faut plus faire ça.
Fait qu'elle prenait juste des genres de smoothies avec...
Ah ouais, c'est Isagenix. Je pense qu'elle prenait, désolée de le nommer, mais elle prenait un déjeuner, un shake pour déjeuner. Elle prend, en fait, encore ce jour, un shake pour déjeuner. Un shake pour dîner, puis le soir, à manger, comme. Puis là, moi, elle m'explique ça, puis elle dit, t'sais, c'est le fun. Elle dit, j'ai déjà perdu comme tant de livres avant d'avoir mon rendez-vous avec toi, puis tout. Puis, tu sais, là, j'étais comme mal de lui dire, mais je suis comme, honnêtement, tu fais à peu près la pire chose présentement que tu ne peux pas faire parce que tu consommes présentement très peu de calories, puis ça va avoir une fin. Puis les shakes, les diètes aux protéines, là, c'est les pires diètes pour que, oui, tu perdes du poids, mais dès que tu arrêtes, tu le reprends, puis après, ça devient super difficile de le perdre.
Justement, j'allais t'en parler de ça, les shakes qu'on nous vend comme des genres de remplacement de repas.
Les boosts et compagnie.
Oui, j'imagine. Mettons, je me dis, ma vision, c'est que pour déjeuner, ça doit être possible. Mettons que moi, d'habitude, je déjeune pas. Je me dis, ça peut-être être bon, dans le sens où tant qu'il n'y a pas déjeuner, ça peut être cool si c'est ça que je déjeune. Mais à part ça, c'est tu t'invites pas les gens à remplacer un leur dîner par ça. Là.
Pas un repas complet, parce que justement, tu n'as pas de légumes, t'as pas de fibres, c'est juste un supplément. T'sais. Comme pour moi, c'est un aliment dépanneur. Puis même pour le déjeuner, c'est mieux que rien, mais ça reste que, tu sais, t'as pas, mettons, tu pourrais aller te faire un déjeuner avec du yogourt grec, des fruits, des noix, des graines, tu sais, qui est beaucoup plus nutritif que juste un shake qui est édulcoré. Les édulcorants, tu sais, au niveau de la santé, c'est encore sous étude, mais tu sais, on s'inquiète de plus en plus de l'impact sur le microbiote intestinal. Tu sais, on dit justement que ça goûte sucré, là, les édulcorants, les shakes de protéines, souvent, ça goûte vraiment beaucoup sucré.
Moi, ça
là.
Me donne le goût de manger plus de marde.
Bien, plus que t'habitues tes papilles à quelque chose de sucré, plus qu'après, tu vas rechercher quelque chose de sucré. Fait que si tu as l'habitude de manger des trucs qui sont édulcorés, qui goûtent vraiment beaucoup sucré, même s'il n'y a pas beaucoup de sucre parce que c'est un édulcorant, bien après, tu vas essayer de manger quelque chose qui est sucré, mais sucré léger. Mettons, tu vas te faire, je sais pas, un muffin de maison qui est très peu sucré, bien tu vas le trouver pas bon parce que tu vas dire, ouais, il est pas assez sucré. Mm. C'est la même chose que le sel. C'est comme si tu t'habitues à manger très, très salé, puis qu'après, tu essayais d'aller manger quelque chose qui n'est pas salé, tu vas trouver que ça n'a pas de saveur, que c'est pas bien équilibré. Fait qu'on habitue nos papilles à ce fake-là, j'ai envie de dire.
Et un produit, mettons, protéiné transformé par jour, là, c'est-tu trop? J'essaie de comme trouver des repères, mettons,
moi,
pour les gens
que c'est
qui... C'est pas mieux rendu là. Rendu là, mange des chips normales puis laisse faire les protéines.
Bien, rendu là, je pense que le choix t'appartient, mais pour moi, c'est la même catégorie, là, qu'il y ait des protéines dedans ou pas de protéines. Tu sais, c'est pas...
La liste d'ingrédients est mauvaise, pareil.
Genre, ouais.
Mais le lait à Audrey, ça peut être cool dans le sens où il y a déjà des protéines.
Ben, ça, je sais pas exactement de quel lait on parle, mais ça
le
peut...
Le Fair Life, on parlait de...
C'est un genre de lait avec plus de protéines.
Oui, c'est un lait qui est comme 15 grammes de protéines.
Ah oui, c'est ça. Pour moi, c'est un aliment. C'est comme si tu mangeais un yogourt grec puis tout. Je sais pas, je connais pas la liste d'ingrédients, fait que je sais pas à quel point, mettons, il peut avoir... j'imagine qu'il y a pas de sucre, parce que souvent, les produits protéinés, ils ont pas de sucre parce que c'est destiné justement à du monde qui font attention. Mais c'est ça, c'est un aliment.
Des questions d'auditeurs qui entrent. Peut-être commencer avec Stéphane, qui nous dit, est-ce que le colorant à café est cancérigène? J'imagine qu'il parle plus des édulcorants que de colorants, mais toutes les Splenda et compagnie, là, c'est vrai qu'il y avait eu à un moment donné des affaires là-dessus, comme quoi c'était pas top, là.
Ouais, ben là il y a plusieurs justement catégories d'édulcorants. Fait que d'un édulcorant à l'autre, tu sais, la réponse va varier. Il y a vraiment un flou scientifique entourant ça présentement. Tu sais, on peut pas dire cancérigène, là, ça sera un peu intense. Par contre, justement, il y a des préoccupations à ce jour, notamment au niveau des édulcorants, puis ben, au niveau du microbiote, comme je disais tantôt. Ce que je dis souvent aussi, là, c'est qu'il y a plein de choses qui sont relativement nouvelles sur le marché, comme le stevia, par exemple. Là, c'est comme la nouvelle panacée, c'est naturel, on va tout sucrer avec du stevia. Il y a quelques années, on a fait la même chose avec l'aspartame. L'aspartame est arrivé sur le marché, il s'est mis à en avoir partout, dans tout le monde en mangeait tout le temps, puis whoop, une couple d'années plus tard, on a réalisé que, oh, finalement, l'aspartame, il y a peut-être un risque sur ça, peut-être un risque pour ça. Puis, on s'est mis à le retirer de partout. Mais est-ce qu'on va faire la même erreur avec le stevia? T'sais, là, c'est approuvé, on en met partout. Puis finalement, dans 10 ans, on va réaliser que, oups, finalement, il y a peut-être un problème, mais ça fait 10 ans qu'on en consomme en excès. T'sais. Fait que, voilà.
C'est pas... à surveiller encore une fois. Il y a des gens qui parlent des shakes de protéines parce qu'on en jasait tantôt. Est-ce que c'est vrai que ça peut affecter la flore intestinale parce que l'estomac n'a pas le temps de la digérer puis que c'est absorbé seulement dans l'intestin?
Je le dirais pas comme ça. Ça peut affecter la flore intestinale, pas nécessairement à cause de la protéine ou de la vitesse d'absorption. Je dirais encore plus à cause de la présence des édulcorants. Tous les suppléments vont avoir des édulcorants ou presque.
Ça devrait être encadré, selon toi, Vanessa? T'sais, tout ce qui touche, on parle de ça surtout parce que pour vous ramener à la source, là, il y a un gros engouement pour tout ce qui est protéines en ce moment au Québec. Puis les grandes entreprises commencent à faire de plus en plus de produits dérivés, là, que ce soit des chips protéinés, que ce soit justement du lait dans lequel on ajoute des affaires. Il y a toutes sortes de trucs qui s'en viennent à l'automne aussi. Là, et Pepsi qui prévoit des lancements majeurs. Puis est-ce que ça devrait être encadré, selon toi, ce type de produits-là? Parce qu'on les voit un peu comme des produits du miracle, là, dans le sens où ça nous évite de... C'est niaiseux ce que je vais dire, là, mais moi, je pense à l'adolescent, mettons, là, ou au jeune adulte qui se ramasse au cégep en appartement, puis que lui, il n'en a pas d'argent pour aller acheter, tu comprends, des poitrines de poulet puis des steaks tous les jours pour bien manger, là, puis qu'il va vouloir remplacer ça par ce type de produit-là. Là.
Mais qu'est-ce que tu verrais comme encadrement?
Ah, c'est une méchante bonne question que tu me poses.
Ben, c'est n'importe, tu sais, ce même jeune adulte-là, c'est peut-être moi. Non, mais c'est peut-être moi présentement. Pis...
Le gars, il s'en fout le conseil.
Non, mais dans le sens. des fois, je mange rien que de la pizza chaque semaine. La pizza est en spécial, puis j'achète de la pizza pour une semaine, puis je mange de la pizza pour une... Il n'y a personne qui va m'empêcher de manger de la pizza pour une semaine.
Mais ça, c'est problématique, Maxime, on va se le dire.
Oui.
Oui. Il y a une intervention à faire, ici, là.
Pas vrai, je fais plus ça. Je fais moins
moi,
ça.
Moi, à place, c'est comment des burgers arrivés pas mal tous les jours en deux pour
mettons
un.
Qu'on ne prendra pas en exemple. Mettons qu'on va laisser faire pour aujourd'hui. Mais, tu sais, oui, c'est sûr qu'il y a un enjeu, parce qu'il y a... Au-delà du marketing, puis qu'on est comme « Ah, oh, wow, c'est santé parce qu'il y a de la protéine », c'est l'accès facilité. Les gens veulent plus cuisiner, on sait pas comment cuisiner, c'est long, on n'a pas le temps, puis tout. Fait qu'on se tourne vers ça en disant que c'est bon pour nous, mais au final, on n'apprend pas plus à cuisiner, puis on prend pas plus le temps de consommer des vrais aliments. T'sais.
C'est une lacune, ça. J'ai l'impression que, ah, je dis Dieu, au oui. Québec, mais partout, c'est vrai qu'on sait plus
tellement,
cuisiner.
Tellement, tellement, tellement. Puis moi, je dis toujours que pour mieux manger, il faut développer ses compétences culinaires. Oui, c'est connaissance, mais c'est compétences culinaires. Parce que le monde s'imagine que bien manger, c'est compliqué. Oui, oui, il faut un petit peu plus planifier, il faut faire des efforts. Ou plat.
Tu sais, dans le sens que les gens pensent que bien manger, tout d'un coup, demain matin, c'est une poitrine de poulet avec du brocoli, vapeur, puis du riz blanc. Là.
Puis là, des fois, justement, quand on tombe trop dans l'excès, quand on veut trop tout couper, bien, c'est là que ça devient plate. Mais manger santé, ça peut tellement être savoureux, mais encore faut-il avoir les compétences pour le faire.
La semaine passée, on a fait un ça ou ça qui a quand même beaucoup, beaucoup fait réagir par le texto 971-1021. Puis j'ai envie qu'on reprenne là où on s'était laissé.
Ouais.
Prendre des suppléments de vitamines ou se fier à notre alimentation, c'est ton premier.
Mm-hmm.
Max?
Je pense que les suppléments peuvent être bons. Évidemment, ça dépend. Il ne faut pas que ton alimentation soit juste tout croche. Je pense pas qu'il y a de mal à prendre des suppléments.
Mais attends, tu penses pas qu'il y a de mal? Est-ce que tu penses que c'est nécessaire?
Bien, nécessaire, ça dépend de ton alimentation.
OK.
Évidemment.
C'est pour moi, j'en prends, ça doit pas être mauvais avec l'alimentation que j'ai.
Ça doit être nécessaire, effectivement.
Bien, moi, tu vois, on dirait que je me dis, avant, on n'avait pas de supplément de vitamines, puis... Fait que je pense qu'il faudrait se fier à notre alimentation, mais je pense qu'on est tellement pourri qu'on n'a pas le choix de se tourner vers les suppléments.
Oui, malheureusement, effectivement, c'est sûr que mieux on mange, mieux nos besoins nutritionnels sont comblés. Mais il y a quand même des catégories de nutriments qu'on sait aujourd'hui que ça vaut la peine souvent d'aller supplémenter. Le classique, c'est la vitamine D, là, qu'on a très peu au Québec, qu'on devrait prendre à l'année ou juste en hiver si on a moins de 50 ans. Mais il y a aussi comme les fameuses oméga-3, le magnésium qui est souvent sous la loupe, le calcium. Fait que il y a vraiment des choses que quand on observe puis on regarde, tu sais, nos habitudes alimentaires aussi ont changé au fil du temps. Là. Fait que quand on observe un petit peu plus c'est quoi nos besoins, ben on se rend compte qu'effectivement, puis même des fois, si on mange bien, il y a des catégories de nutriments qu'on n'est pas capable de combler via l'alimentation. Il faut savoir aussi, tu dis, dans le temps, on n'avait pas, mais on vit beaucoup plus vieux que longtemps. Mmh. Donc, on est exposé à beaucoup plus de pathologies. On mange beaucoup plus d'aliments transformés.
Les aliments sont-ils moins nutritifs?
Oui, ça, effectivement, je me suis beaucoup... penché sur le sujet là, dans les dernières années, puis c'est dur de trouver de la littérature quand même sur le sujet, mais oui, quand même, ce que j'en conclue, c'est que oui, parce qu'effectivement, les sols sont beaucoup moins nutritifs qu'ils l'étaient, puis toute notre manière finalement de faire de l'agriculture en accéléré, bien, ça fait en sorte effectivement que nos aliments, nos végétaux surtout, sont moins nutritifs qu'ils l'étaient par le passé.
Fait que ça peut jouer là-dessus aussi,
100%.
On parlait de Pepsi tantôt, l'entreprise, évidemment, mais si on a le choix Pepsi ou Pepsi Diète?
Ben, j'imagine diète. Là.
Tout le monde va dire diète.
Mais moi, à base, je préfère le goût du diète aussi.
Ah ouais?
Ouais, vraiment.
C'est rare, ça.
Moi, un bout, je buvais un Pepsi diète par jour.
OK.
Oh, ouais. Oui. Moi, ma santé va vraiment bien.
Tu sais, quand on sait le sucre qu'il y a dans le Pepsi, c'est sûr que mon réflexe, c'est de te dire Pepsi diète aussi. Mm-hmm. Là, mais tu sais, rendu là, le produit en soi m'a pas l'air d'un bon produit. Là, fait que...
Ça revient un peu à notre discussion de tantôt sur les édulcorants, mais j'aime quand même répondre à cette question-là en donnant un exemple. Okay? Effectivement, mettons que moi, tu me dis, t'es obligé. Là. Soit tu prends un Pepsi régulier ou un Pepsi diète, lequel que tu prends. Je vais te dire Pepsi diète, effectivement, parce que un Pepsi régulier, c'est genre 40 grammes de sucre. Là. 40 grammes de sucre, c'est 10 cuillères à thé. C'est énorme.
Ah, quand tu vois le visuel...
Ouais,
là,
le visuel en cuillère à thé.
Tu le vois passer des fois sur Facebook, puis je sais pas si c'est tout vrai, là, mais un aliment ou n'importe quoi...
En équivalent de cube.
Puis t'as la quantité de sucre que tu vois visuellement à côté...
ça fait mal.
Puis des fois, ça fesse, là.
Mais d'ailleurs, pour les auditeurs, je dis souvent à mes clients, puis je vous invite à vous rappeler de cette information-là, là. Rappelez-vous qu'une cuillère à thé de sucre, c'est 4 grammes. Fait qu'à partir du moment où tu sais ça, quand tu regardes après les étiquettes puis la teneur en sucre des aliments, tu es capable de le voir en cuillère à thé, puis ça te parle beaucoup plus. Donc, je reviens à l'histoire du Pepsi Diet au régulier. Donc, pour moi, c'est tellement épouvantable, justement, 40 grammes de sucre dans un breuvage, que je prendrais le diète. Par contre, mettons que tu me dirais, est-ce que tu veux un kombucha diète ou un kombucha régulier? Les kombuchas, c'est un peu plus, tu sais, ça a une aura, pas un marketing, c'est destiné à être plus santé. Donc, un qui serait sucré aurait environ peut-être 8 grammes de sucre versus l'édulcoré qui serait évidemment avec des édulcorants. Fait qu'un 8 grammes de sucre, je choisirais, je pense, le sucre régulier versus les édulcorants parce que c'est beaucoup plus acceptable, je vais le mettre entre parenthèses, là, selon
naturel, moi. Naturel, entre guillemets, mettons?
Ben, c'est moins intense que 40 grammes de sucre, tu sais, du Pepsi.
Je salue l'auditeur qui nous dit, moi qui écoute la chronique en mangeant de la pizza congelée accompagnée d'une white claw. Hey, regarde, c'est les vacances. Faut pas buzzer non plus, là. Mm-hmm. Hey, patate douce ou pomme de terre?
Pomme de terre.
Hein? Quoi?
Ben, moi, j'allais dire...
Feeling.
J'allais dire patate douce pour une seule raison. J'ai souvent commandé dans ma vie des repas préparés, tu sais, bien calculés et compagnie, là, parce que, bon, j'ai eu des moments où je travaillais bien trop, puis c'était comme ma seule façon d'essayer de manger équilibré. Puis c'est tout le temps des patates douces qui mettaient là-dedans. Fait c'est comme si ça m'est rentré dans la tête que, ben, définitivement, les patates douces sont visiblement meilleures que les patates, mais pourtant, les patates, je veux dire, pas le diable.
Mais justement, c'est pour ça que ça m'a surpris, Max, que tu dises la pomme de terre, parce que j'ai l'impression que dans la mentalité, les gens sont vraiment comme « OK, la patate douce est meilleure pour la santé », mais ils ne savent pas trop pourquoi. L'univers du fitness a beaucoup mis de l'avant la patate douce pour la seule et unique raison. Puis là, je ne veux pas comme m'enligner dans des explications qui sont super complexes, mais la patate douce, en fait, elle a un index glycémique qui est plus bas que la patate. Ce que ça veut dire, dans le fond, c'est que quand tu consommes des patates douces, le taux de sucre dans ton sang va monter moins rapidement que si tu manges une pomme de terre. Donc, ça a un index glycémique qui est plus bas. Par contre, à chaque fois que tu combines ton aliment avec d'autres choses, ça va avoir de l'impact sur ton index glycémique. Donc, si tu le manges justement avec des protéines, avec des gras, bien, ça va ralentir la vitesse d'absorption puis ça va changer justement cet effet-là de sucre dans le sang qu'on veut éviter. Fait que, tu sais, les patates douces seraient plus nutritives dans la mesure où tu dirais, bien, en collation, je mange soit une patate ou une patate douce.
Qui arrive pas souvent.
Qui arrive jamais. Tu vas le manger dans une assiette, tu sais, dans la même école de pensée, dans la même ligne de pensée, dans le fond, tes pommes de terre auraient un index glycémique qui serait moins élevé si tu les mangerais avec de la mayonnaise, parce que le gras va ralentir la vitesse d'absorption. Hein. Est-ce qu'on devrait quand même toujours ajouter de la mayonnaise sur nos pommes de terre?
Oui.
Non. Non, le ketchup, c'est nettement mieux. Non,
mais non.
Fait que je suis comme, cette recommandation-là, elle fait comme pas de sens sur l'index glycémique. Puis l'univers du fitness en général est très basé là-dessus. Là. C'est le même principe du riz basmati, mais dans un repas complet, c'est particulier.
Je savais.
Pourtant, la patate douce est plus sucrée que la patate. Puis tout le monde capote sur le sucre. Mais beaucoup plus sucré, on le goûte d'ailleurs.
Tu as parlé de riz, puis on dirait que la question qui m'est venue en tête a peut-être l'air niaiseuse. Là. Mais riz, basmati, jasmin, du riz, c'est du riz dans ma tête. Là. C'est quoi la si grande différence entre les différents?
S'il y a un nom après riz, c'est plus santé. Je pense que c'est ça dans la vision du monde, en tout cas.
Il y a toujours un nom après riz.
Non, mais on dirait que quand tu parles juste à du riz blanc. Non, mais quand tu penses à du riz de base, on s'entend, au riz blanc.
Ouais.
Ben, taxe pas du riz blanc, on dirait que c'est tout le temps plus santé que du riz blanc.
Oui, ben, tu sais, les riz, encore une fois, c'est un gros sujet, là, dans le sens que, tu sais, il y a, mettons, le riz sauvage qui est full complet, full nutritif, plus de fibres, plus de protéines. Sinon, tu sais, le riz basmati est correct, je te dirais, il n'y a pas beaucoup de fibres, mais index glycémique bas. Donc, plusieurs l'apprécient pour ça. Il est bon au goût, facile à faire aussi, il est très polyvalent en cuisine. Là. Sinon, le riz brun, pour moi, le riz brun, c'est comme le pire grain entier du monde, là, dans le sens que... Non, mais il est nutritif, mais comme si tu veux pas avoir de fun dans la vie, mange du riz brun.
C'est,
c'est pas bon, genre, c'est ça. Fait que le riz sauvage, pour moi, est nettement mieux. Le quinoa va être mieux qu'un riz brun. T'sais, là, je parle vraiment de goût, là, plus que de valeur nutritive. Donc, voilà.
Beurre ou margarine? Dans ma tête, le beurre a toujours été à prioriser. Je sais pas pourquoi, là. Dans ma tête, c'est juste, ça vient de la vache, puis je sais pas. Là,
c'est
vraiment les œufs. Oui, on dirait que ça sonne ça.
Moi, chez nous, il n'y a jamais eu de beurre. Ça a tout le temps été de la margarine.
Est-ce que tu sais pourquoi?
Pourquoi moi, c'est juste ça coûte moins cher. Puis moi honnêtement, je fais même pas tant de différence. Tu sais, moi, sur ma toge, je mets de la margarine. Puis,
mais ça coûte différent, ça. Tu peux pas dire que ça goûte. C'est pas mauvais, par exemple, la margarine. Chez nous, on a toujours eu les deux aussi.
Moi
puis,
aussi.
J'imagine que ça goûte différent, mais moi, sur ma toge, je vois pas tant de différence.
Mais il y en a qui voient vraiment la différence. Moi, non plus, je vois pas tant que ça. Moi, ce qui me gosse du beurre, c'est que s'il est fret, c'est vraiment dur à mettre sur une toge.
Ah, c'est tough. Ça déchire le pain, c'est pas rentable.
Mais pour répondre à la question, dans le fond, il y a plusieurs personnes qui ont. Parce qu'il y a été une époque, en fait, où on mettait vraiment de l'avant la margarine parce qu'on faisait un peu la guerre aux gras saturés qu'on sait qu'ils sont plus mauvais, plus à surveiller, devrais-je dire, pour la santé cardiovasculaire. Et le beurre est riche en gras saturés. Donc, on s'est mis à mettre de l'avant la margarine pour prioriser une saine alimentation. Mais maintenant, tu sais, on a comme un peu de recul parce qu'on dit, ouais, mais la margarine, dans le fond, elle contient toujours une part d'huile de palme qui sont vraiment des très mauvais gras. Puis en plus, c'est plus transformé. Fait qu'il y a des additifs alimentaires là-dedans. Fait que tu sais, t'as comme le beurre qui est riche en gras saturé, puis t'as la margarine qui est plus transformée avec de l'huile de palme. Fait que c'est comme si dans les deux cas, il y avait chacun leur inconvénient. Moi, ce que je dis souvent, c'est au final, les deux produits, c'est quelque chose au quotidien qu'on ne devrait pas utiliser tant que ça. T'sais, dans la mesure où on assume qu'on cuisine principalement avec des huiles végétales, t'sais, le beurre ou la margarine, au final, si mettons sur une toast une fois de temps en temps, si genre là, c'est le temps du maïs, fait que sur un maïs, évidemment.
Évidemment.
Ben, ça prend du beurre, on dirait. Maïs, c'est la seule place où mets pas de margarine là-dessus. Maïs, ça prend
du beurre.
Faut que tu le roules dans le beurre.
Directement dans le beurre.
Le trou pis tout, là.
Pense c'est ça la règle.
Avec pain et du sel.
Je suis d'accord.
Ensuite de ça, ça c'est comme un trio, là. Les pâtes régulières, les nouilles de konjac ou la courge spaghetti.
C'est quoi une nouille de konjac?
C'est une plante, le konjac, non?
Oui, bien dans le fond, c'est une bonne question. Ce qu'est le konjac, c'est une excellente question. Ça doit être une plante, effectivement, parce que c'est extrêmement riche en fibres, puis les fibres nous viennent du règne végétal.
Oui, c'est une plante.
Mais dans le fond, si tu achètes ça là, à l'épicerie, c'est comme un fake de pâtes qui sont un peu dans un emballage, c'est aqueux, puis ça a comme...
25 calories.
Genre, ça a presque pas de calories.
Puis sais-tu quoi? Ça goûte vraiment pas bon.
Ça a l'air vraiment dégueulasse,
le pire, c'est que... écoute, j'en avais acheté parce que mon Dieu, je suis très influençable comme tout le monde. En moins calories que tu manges des pâtes, on dirait que ça marche. J'avais acheté ça, puis l'affaire, c'est que ça, tu les mets pas dans l'eau, Max. Tu vides le liquide visqueux dans lequel
c'est
ils
dégueulasse.
Sont. Non, là, honnêtement, c'est gluant.
Hey, pour vrai, je vais faire des pâtes. Peu importe la réponse, là, je vais garder les vieilles pâtes.
C'est que tu les mets dans une poêle, faut comme que tu les fasses. Je veux pas dire griller, là, mais faut vraiment que tu les mettes dans la poêle et non dans l'eau.
Qui fait ça?
Fait que j'imagine que ça vient je sais pas, ça doit donner un goût bizarre. C'est pas si horrible.
Parce qu'il y a un goût bizarre en plus.
Mais non, mais ça goûte pas les pâtes.
Ouais, c'est ça.
Mais quand, mettons, tu les mélanges avec plein d'affaires, il y a moyen de moyenner, là.
Il y a moyen de moyenner. Puis là, c'est après ça qu'on dit que manger santé, c'est plat, puis c'est chiant.
Ouais.
Absolument, 100%.
Parce que ça, j'imagine, c'est santé, sinon ça n'a rien pour elle. Là.
Fait que là, j'imagine quand les pâtes... on va dire bye au konjac, là. Si on parle entre les pâtes régulières puis la courge spaghetti, on dirait que tout le monde va dire courge spaghetti, là. C'est un légume, je veux dire.
C'est les pâtes. Parce que
mais courge, les pâtes, c'est transformé.
Ouais, mais les courges, ça c'est pas bon pour toi, ça te donne rien, ça.
Mais c'est par exemple, c'est bon de la courge pâte. Quand tu sais bien comment la faire, là, c'est...
Ouais.
Ben, les deux options peuvent être intéressantes. Parce que, effectivement, comme tu dis, la courge, c'est une courge pas transformée. Les pâtes, c'est un petit peu plus transformé, quoique le niveau de transformation, il est quand même léger. Le piège, en fait, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui vont prendre la courge spaghetti puis qui vont se forcer à faire de la courge spaghetti parce que c'est moins calorique. Puis là, les pâtes, ils se disent que ça fait dombant engraissé. Par contre, la courge spaghetti est effectivement moins calorique, mais... T'sais, si au final, tu manges moins de calories, là, sur le coup, tu vas être rassasié parce qu'elle contient beaucoup d'eau quand même et tout, mais au final...
Tu vas avoir faim dans une demi-heure.
Puis là, tu vas te ramasser à manger du pop-corn protéiné.
Et voilà!
Pour te déculpabiliser, tu comprends? Fait que des fois, on pense qu'on fait la bonne chose, mais au final, puis c'est la même chose avec les nouilles konjac parce qu'Audrey, t'es offloché, mais mais je vais quand même mentionner qu'au final, tu sais... Si tu manges pas de calories, là, sur le coup, tu vas remplir ton estomac, tu vas être correct, mais si ton corps a besoin d'énergie, puis t'essayes de le faker, mais il va avoir faim. Tu vas avoir faim une heure plus tard. Puis si, mettons, c'est au souper que t'as mangé tes nouilles Konjac, ben tu vas te ramasser devant la télé à avoir envie de grignoter. Puis ce qu'on grignote devant la télé, souvent, c'est pas super intéressant. Par contre, au niveau des pâtes, je tiens quand même à mentionner que ça vaut la peine aussi, encore une fois, de prendre la version entière plutôt que les pâtes blanches. Parce que les gens ont le réflexe beaucoup de le faire pour le pain. On prend le pain de grain entier de plus en plus. Là, pour vrai, c'est de plus en plus rare que j'ai des clients qui mangent des pâtes blanches, mais pas du pain blanc. Mais les pâtes, on a moins le réflexe. Puis ça fait une différence quand même sur la satiété. Si tes pâtes sont moins transformées, si tu as plus de fibres, tu vas en manger une plus petite quantité. Puis ça, ça paraît.
Oui, mon Dieu, tu vois, je fais partie des coupables. Jamais pensé à ça, moi, là. On parlait de protéines tantôt. J'ai vu que là, ils ont sorti des nouvelles pâtes protéinées.
Protéinées de Catelli. Je suis obligée de te dire que je les aime d'amour. Ces pâtes-là sont vraiment hot, OK? Depuis longtemps, quand même, sur le marché, là, il y a des pâtes de légumineuses. Est-ce que tu as déjà mangé des pâtes de légumineuses?
À base de pois chiches, là, ça va pas pantoute.
À base de pois chiches ou bien de fèves, évidemment. Mais tu sais, il y en a plusieurs. Honnêtement, c'est correct, mais tu fais un méchant compromis sur la saveur puis la texture.
Mais la texture, c'est horrible chaud.
C'est ça.
Limite froid, moi, tu vois, en salade de pâte, c'est un peu moins pire, mais
d'accord.
Chaud, là, c'est pâteux dans la bouche. Là.
Hey. Effectivement. Fait que là, mais eux, il y avait beaucoup plus de protéines. Fait que là, les gens trouvaient ça le fun. Dernièrement, Catelli ont sorti des pâtes protéinées. La boîte est jaune. Pour vrai, là, c'est comme un blend, dans le fond. Fait que c'est pas juste une légumineuse, mais il y a quand même, si je pense, c'est pois chiches, lentilles, blé. Fait qu'il y a un mélange de plein d'affaires. 17 grammes de protéines par portion. Et ça coche en termes de goût, en termes de texture. On a l'impression qu'on mange des pâtes régulières. Pourquoi est-ce que je trouve ça coche? C'est que quand tu veux pas te casser la tête, là, mettons, tu dis, hey, il me semble que je mangerais des pâtes au pesto, moi, avec une petite salade, puis j'ai pas de poulet, j'ai pas de protéines, là. Ben, t'as déjà tes protéines dans ta pâte.
C'est une belle alternative.
Tu peux te faire des pâtes à sauce tomate, mettons, puis t'as déjà de la protéine dans ta pâte.
Bon, ça.
Ou bien des salades de pâtes, par exemple. Fait que c'est pratique.
T'es en train de me convaincre.
C'est vraiment pratique. Moi, j'en ai à la maison, puis j'adore ça. Par contre, est-ce que je me ferais un spaghetti aux pâtes protéinées? C'est peut-être pas nécessaire si t'as une sauce à la viande. T'sais, tu peux prendre une pâte normale.
Je termine avec les produits bio ou pas bio. C'est souvent une question qui revient. Si on dirait que les gens comprennent pas c'est quoi la différence entre les deux, bio, ça coûte plus cher. Est-ce qu'on devrait aller vers là ou pas? Non, mais c'est vrai.
Puis on a l'impression que bio, c'est plus santé à tout
c'est
coup.
Grano.
Là.
Tout le temps,
ouais,
mais
c'est
oui,
ça.
Vraiment.
Fait que plus santé bio?
Ben, j'imagine, là, la réponse va vraiment être « ça dépend ».
Mais dans le sens, moi, je pense que c'est dans le processus. Tu sais, je pense que c'est une question de, je veux dire, valeur et d'éthique.
Ouais,
rendu
éthique.
Là, ça se peut-tu?
Très environnemental, très éthique, le biologique. Puis au niveau de la littérature, en fait, puis si vous allez fouiller là, sur le web, vous allez probablement trouver ça. Il n'y a pas d'études solides qui permettent de dire que le bio est plus santé que le non-bio. Par contre, moi, j'ai l'impression, c'est que quand on étudie, mettons, l'effet d'un additif alimentaire ou d'un pesticide sur la santé, le problème, c'est qu'on va les étudier de manière isolée. Fait qu'on va étudier, exemple, tel additif en telle quantité. OK, ben là, on va être correct, mettons, si tu manges tel dosage, fait que t'as le droit d'utiliser ça dans les aliments. Par contre, on les étudie pas tous ensemble, mais nous, on mange pas un pesticide ou un additif, on mange un pool dans plein d'aliments. Puis moi, je suis plus ça va, plus je suis convaincue, effectivement, que si on a autant de troubles digestifs, autant de pathologies inexpliquées, il y a un lien avec tout ce qu'on consomme qui n'est pas naturel, qui, au final, on a un peu perdu nos repères parce que c'est comme un mélange de plein d'affaires. Puis ça reste que, justement, il y a des choses qui sont, mettons, permis au Canada, mais pas permis en Europe. Tu sais, déjà là, tu as un gros point d'interrogation sur pourquoi eux, ils le considèrent comme dangereux, puis nous, on en mange, tu sais. Fait que, puis tu sais, l'idée, c'est pas de se mettre de la pression, là, dans le sens que l'alimentation coûte déjà vraiment cher, mais il y a des produits sur lesquels il n'y a pratiquement pas de différence en termes de prix. Tu sais, mettons, le tofu, tu le prends régulier ou bio, c'est quasiment le même prix. L'été, on a accès à quand même des légumes bio qui sont intéressants. Moi, tu vois, je me suis inscrite à un panier bio, justement, que j'ai cherché une fois par semaine. Ça, je trouve que ça vaut la peine, mais c'est
un choix personnel. Faudrait faire, Vanessa, une chronique à un moment donné sur... tu l'as dit, là, l'épicerie coûte cher. Tu sais, les espèces d'incontournables santé à maison qui dépannent et qui le sont pas cher.
Vraiment.
Tu sais, je pense vite de même, puis je dis peut-être de la chenoute, là, mais tout ce qui est légumes, fruits congelés, là, moi, des fois, quand ça vient en rabais, on m'a dit que je remplis le panier en tabarnouche.
Tellement que ça vaut la peine.
Hey,
les fèves edamame, dans mon top des trucs économiques que tout le monde devrait avoir à la maison, des fèves edamame, ça vaut vraiment la peine. Mm. Les œufs, les cannes de poisson, il y a vraiment certaines choses. Les pâtes Catelli, ça rentre aussi. T'sais. Quand on va chercher une protéine comme ça, de manière végétale, t'sais, si tu ne mets pas de poulet dans tes pâtes parce que justement, tu en as déjà dans ta protéine,
c'est un lifesaver.
Ben oui, mais tu as sauvé manger des soucis.
Vanessa Daigle, nutritionniste, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Merci en passant pour les dernières semaines. C'est notre dernière semaine
plaisir.
De remplacement. Moi, je suis comme en grosse nostalgie cette semaine. Là, j'ai l'impression qu'on perd tout le monde.
Oh.
On se retrouve dans la saison régulière, évidemment. Tu vas faire partie des collaborateurs de l'Open Mic encore cette saison-ci, si tu le veux bien. Merci beaucoup pour
ça
ton passage.
Plaisir.
Max, pas le choix de retourner dans la circulation.
Oui, le problème important dont on vous parle depuis un petit moment déjà, accident, les services d'urgence qui sont sur place, là, mais Capitale-Est, fermeture de la desserte pour Robert Bourassa Nord, déviation par Robert Bourassa Sud, et Robert Bourassa Sud, fermeture, bretelle d'accès pour Capitale-Est. Et là, je sais pas si c'est... Ça semble être autre chose, un autre accident dans le même secteur, parce qu'on nous le mentionne vraiment à part. Là. Robert Bourassa Sud, l'accès depuis Capitale-Ouest, partiellement entravé par un accident. Là aussi, on nous dit que les services d'urgence qui sont sur place, fait que dans ce secteur-là, ça ne va pas, mais pas du tout.
Vous êtes dans le retour de Boulevard 102.1. Merci d'être là. Il y a quoi que ce soit, vous vous gênez pas au 88 971 1021. Voici Fall Out Boy, Dance Dance à Boulevard.